Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 29 janvier 1992.
Nous sommes restés à cette interrogation, la seconde interrogation sur ce qu'est la réalité, l'homme, du point de vue de l'être. Seconde interrogation du Tielsti, qu'est-ce qu'il est? Non plus du point de vue de sa détermination fondamentale, mais du point de vue de son actualité ultime. Ce qu'est l'être pleinement lui-même. Dans son achèvement, dans son épanouissement, si j'ose dire. Puisque, de fait, les autres interrogations, on les a écartées. On ne peut pas se poser la question d'où l'être. C'est une interrogation qui regarde le devenir. L'être, il est. On ne peut pas poser la question en quoi est l'être. Parce que l'être est parfaitement déterminé en lui-même, la découverte de la substance, source de toute détermination. L'être implique en lui-même toute détermination. Or, l'interrogation « en quoi ?» nous fait découvrir la matière. La matière n'est pas propre à l'être. La matière n'entre dans la réalité que sous l'aspect du comment. C'est très important de bien saisir cela. C'est pas commode, hein. Mais c'est très important. Par là, nous comprenons l'erreur du marxisme, de la dialectique matérialiste, de toute position matérialiste qui considère que la matière est principe propre de ce qui est. Et donc tout être en tant qu'être est matériel. Il faut bien comprendre que la découverte de la substance, de l'ousia, de la substance au sens très fort au plan métaphysique, c'est-à-dire la source de toute détermination, fait que l'être n'implique aucune indétermination. Donc, aucune matière. La matière est source du devenir et non pas de ce qui est comme tel. Le devenir par rapport à l'être est une manière d'exister. Ce n'est pas ce qui est. Et donc, toutes les réalités que j'expérimente, de fait, que j'expérimente immédiatement, impliquent un devenir. Voyez, c'est là où on voit combien la métaphysique qui s'appuie sur l'expérience doit tout de suite dépasser l'expérience grâce au jugement d'existence, qui est une méta-expérience, et que le regard métaphysique, qui est le regard de l'intelligence, tout de suite atteint ce qui est au-delà du devenir. Primo cadit in intellectus ens. Et non pas le devenir. Et je dois faire la même constatation par rapport au devenir, par rapport à la cause efficiente. Ce qui est comme tel n'a pas de cause efficiente propre. L'être s'impose à moi. Ce qui est s'impose à moi, au-delà du devenir. Donc, il absorbe la cause efficiente, son origine. L'être comme tel n'a pas d'origine propre, il est. On verra qu'il a une origine radicale, fondamentale dans le problème de la création. Mais la création est au-delà de l'expérience. C'est très important aujourd'hui de bien saisir cela pour comprendre que la création ne peut pas être découverte par un regard scientifique. Si l'être avait une cause efficiente propre, le savant pourrait découvrir la création. Et donc le Big Bang serait en quelque sorte la création. Vous voyez, c'est le problème très actuel, c'est le problème que soulève Guiton dans son livre. Et la seule manière pour voir qu'il y a une confusion, c'est justement de bien comprendre que ce qui est comme être n'a pas d'origine propre. Seul le devenir a une origine immédiate que je peux constater. C'est très raide, hein, comme toujours la métaphysique. Mais c'est très important. Il n'y a donc que deux interrogations métaphysiques. Vous voyez, c'est là où on touche la simplicité de la métaphysique. Et combien la métaphysique, c'est vraiment le regard de l'intelligence comme intelligence, au-delà de l'intelligence résonante, qui est l'intelligence scientifique. Scientifique dans le sens moderne. Parce que scientifique dans le sens d'Aristote, c'est quelque chose de très différent, puisque la philosophie première est scientifique pour Aristote, puisqu'elle découvre les causes propres. Il faut donc toujours bien être, faire attention à cela. Et je crois que là encore, le livre de Guiton, ce sont des confusions entre scientifique au sens ça qui est terrible. Quand on découvre quelque chose de nouveau, on ne devrait jamais employer un mot qui existe déjà et qui a une autre signification. La science moderne, quand elle est née, elle n'aurait pas dû s'appeler science. Elle aurait dû s'appeler autrement. Science avec bémol. Alors là, très bien. Mais elle emploie un mot qui a déjà une signification de plusieurs siècles. Et on prend ce mot et on lui donne une autre signification. Mais, au sens rigoureux, c'est fausser le langage de faire ça. Aristote est terrible là-dessus, hein, parce qu'il met un parallélisme entre le langage et la monnaie. Quand on fait ça pour la monnaie, on dit vous êtes malhonnête. Quand on fait ça pour le langage, on ne dit rien. Or, c'est pire de fausser l'intelligence que de fausser le commerce. C'est très important, vous voyez, pour la santé de l'intelligence, de saisir comment le patrimoine de l'intelligence, à un moment donné, a été faussé. Je n'accuse pas au point de vue moral, parce que sans doute ceux qui ont fait ça l'ont fait avec une très bonne intention. Mais toutes les bonnes intentions ne sont pas toujours dans la vérité. Il y a un moment, vous voyez, c'est ce petit livre de Gilson qui est très intéressant à ce point de vue-là. C'est quand Gilson montre que Descartes se sert de tous les termes scolastiques en leur donnant une autre signification. Alors, à partir de là, on fait la confusion. Et c'est pour ça que nous sommes obligés, si nous voulons retrouver une santé d'intelligence, de redécouvrir le sens premier et découvrir le moment où il y a eu erreur d'aiguillage. On emploie le même mot en lui donnant une autre signification. On se pose donc la question, qu'est-ce qui est l'achèvement de ce qui est comme tel? Ce qui est ultime comme tel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est la fin de l'être? C'est très important de bien comprendre la signification de cette interrogation. Parce que là, on est obligé de la redécouvrir. Elle est complètement périmée. Si l'âme n'est plus sur le marché philosophique, cette interrogation n'est plus du tout sur le marché philosophique. Depuis de nombreux siècles. Très vite après saint Thomas. Dont Scott. Donc, vous voyez, 14e siècle. Depuis le 14e siècle, c'est faussé. Quand vous regardez une métaphysique dite thomiste, je prends le livre très honnête du père Gardeille, Henri Gardeille, sur la métaphysique de saint Thomas. Tout petit livre. Et que vous essayez de comprendre au plan scientifique, au sens de saint Thomas et d'Aristote, vous ne voyez plus l'interrogation par rapport à la finalité. On ne prend plus que qu'est-ce que c'est que l'essai en saint Thomas, qu'est-ce que c'est que l'être en acte, mais on ne voit plus l'interrogation. C'est-à-dire qu'on oublie que l'être en acte est saisi au terme d'une induction. On croit que l'être en acte, on le touche. Il est objet d'expérience. Il est saisi dans une expérience. Et toutes les confusions dans le thomisme actuel sur l'essai proviennent de ça. On ne sait plus poser l'interrogation: quelle est la finalité de ce qui est comme tel? Alors, on essaie de comprendre les significations de l'essai dans un dhamma. C'est très bien. Il y en a 5. Et elles sont très intelligibles quand on comprend la première. Mais si on ne comprend plus la première, elles sont inintelligibles. Et vous arrivez presque à dire, comme certains, saint Thomas a un langage extrêmement confus. Il a un langage très analogique, très subtil, c'est très vrai, mais très précis. C'est pas du tout la confusion. C'est parce que vous jugez saint Thomas en fonction des confusions qui viennent après. C'est pour ça que j'essaie de redécouvrir au-delà de la matérialité des faits, du langage, redécouvrir qu'est-ce que c'est que la fin de ce qui est comme tel. Donc vous voyez, la première chose qu'il faut faire, c'est de redécouvrir cette interrogation dans toute sa pureté. Si vous ne redécouvrez pas cette interrogation dans toute sa pureté, c'est inutile. Votre intelligence ne bougera plus et vous resterez dans une sorte de positivisme à l'égard de la finalité. Ce qui est le pire des positivismes est de regarder uniquement le fait. Donc, voyez bien l'interrogation. C'est pour ça que je reprends les 4 grandes interrogations. Et vous devez, vous, parce que ça c'est votre intelligence, c'est vous qui devez faire ça. Je ne peux pas le faire pour vous. Je ne peux pas être intelligent pour vous. Très ennuyeux. Je peux vous indiquer comment vous pouvez sortir du matérialisme et du positivisme. Ça oui. En sachant que le climat dans lequel nous vivons fait de nous des positivistes et des matérialistes. Quand on a vécu 40 ans sous le joug marxiste, et quand on a vécu 5 siècles sous le joug du positivisme, on respire comme un positiviste. On respire comme un marxiste. Or, je crois que notre devoir aujourd'hui, c'est de sortir du positivisme et de sortir du marxisme. Même si on n'est pas entré dedans, il faut en sortir pour ceux qui sont entrés dedans et leur montrer la confusion. Ça, c'est très très important. Et comment on le fait ? Par l'interrogation. L'interrogation, c'est la voie de la libération. L'idéaliste n'interroge plus, dit Merleau-Ponty. C'est une phrase merveilleuse. Merleau-Ponty n'aurait dit que cela dans toute sa vie. Il mériterait un cadre. L'idéaliste n'interroge plus. Les idéologistes n'interroge plus. Et donc, nous voulons sortir de l'idéalisme marxiste, positiviste. Et nous voulons être réalistes. Réalistes par rapport à l'homme et par rapport à la philosophie première. Et donc, déroge pas par rapport à mes idées. Jamais. C'est votre avoir. Ne dérogez pas sur votre avoir. Vous comptez votre avoir. Et vous le mettez à la banque. Vous interrogez la réalité. Alors, l'interrogation. Première, au plan philosophie, première, c'était celle qu'on avait étudiée l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que l'être du côté de sa détermination, donc du côté de sa forme? Le premier tiesti, le tiesti fondamental, le tiesti, hein, comprenez bien, c'est une bête très curieuse. Qu'est-ce? C'est l'interrogation première. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce? Qu'est-ce l'être? Ce qui est. Comme être. Oui. Le comme formalise. Isole, thématise. Montre l'être dans toute sa force. Qu'est-ce que c'est que l'être? Comme être. Il faut se poser l'interrogation. Hein. Il faut voir ce que ça signifie. Découverte de la cause selon la forme de ce qui est. Qu'est-ce qui est de premier dans ce qui est, dans l'ordre de la détermination? Je découvre la cause de toute détermination, l'ousia. Et maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être, le même tiesti, mais pas celui qui est premier et fondamental, et celui qui est ultime. Mais c'est là où on saisit bien que mon intelligence n'est pas intuitive de l'être. Je n'ai pas qu'un seul regard sur l'être. L'être mesure l'intelligence. L'être est premier par rapport à l'intelligence. L'être, c'est-à-dire ce qui est la res, la réalité. L'homme existant, c'est premier. Et donc, pour le saisir, je prends les deux interrogations ultimes, les plus éloigné pour l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être fondamentalement dans sa détermination, dans sa forme? Qu'est-ce que c'est que l'être d'une manière ultime? Ultime, c'est-à-dire ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Qu'est-ce qui est ultime pour vous ici dans le regard? C'est le ciel. Alors, quel est le ciel de l'être, hein? Métaphoriquement, hein, pour que vous compreniez, au petit gosse qui regarde le ciel, il ne peut pas aller au-delà. Il voit dans le ciel, il voit des étoiles. La nuit, il voit ça. Et donc, la nuit, il va plus loin. C'est curieux. Hein? Il voit des étoiles. La journée, on va moins loin. Le soleil nous éblouit. On ne voit plus les étoiles. Dès que la nuit, vous allez plus loin. C'est très joli, du reste, de comprendre que la nuit nous permet d'aller plus loin. On découvre des lumières qui autrement, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans cette réalité qui est ce qui est comme être? Dans cette réalité dont j'ai saisi la source de toute détermination. qu'est-ce qui est la fin de ce qui est? Alors, comme c'est quelque chose d'ultime, et je sais que c'est déjà pas commode de saisir l'ousia, la substance. C'est pas commode de saisir la substance. Donc, c'est encore beaucoup plus difficile de saisir ce qu'il y a d'ultime dans ce qui est sa fin. Je vais me servir de toutes les expériences que j'ai de la finalité, de la fin. La fin se présente à moi dans des modalités très différentes. Nous l'avons vu. L'inventaire de toutes mes expériences de ce qui a ultime. Ce qui a d'ultime dans la connaissance, dans ma connaissance artistique, dans la philosophie de l'activité du facere, l'œuvre. L'œuvre est la fin. Pendant 2 heures pour faire un petit topo là-dessus. Je reste ferai sans doute des découvertes étonnantes. C'est pas si commode que ça de répondre. Hein. Est-ce qu'il y a une expérience nouvelle de la fin? Bon, l'enfant est le fruit d'un amour. Et le fruit du don de l'époux et d'épouse. Alors voyez, l'amour d'amitié comme tel a sa finalité immanente. Et il peut y avoir une fécondité. Et l'amour d'amitié devient source de l'enfant. L'enfant est le fruit. Il est le bien commun. Mais un bien commun substantiel de l'époux et de l'épouse. L'épouse ne peut pas dire « c'est mon fruit ». C'est mon fruit en rejetant la mère. C'est le fruit commun. Et c'est le fruit. Donc, finis effectus. Mais d'une manière nouvelle, pas comme l'œuvre d'art. Comme c'est curieux, ce n'est pas une vraie finalité au sens absolu. Puisque c'est un fruit. La vraie finalité, c'est l'amour qui unit l'époux et l'épouse. L'enfant n'est pas la fin. Quand il devient la fin de la mère, ça devient terrible. La mère accapare. Et alors, quand l'enfant grandissant entre au couvent, c'est la mort de la mère ou la mort du père. Puisque c'est leur bien. Si c'est leur fin, c'est leur bien. Et l'enfant n'est pas le bien des parents. Il l'est d'une certaine manière, mais pas d'une manière absolue. Mais on touche tous les problèmes, là. Hein. Et c'est intéressant, c'est important de voir ça. Alors, y a-t-il une nouvelle expérience de la finalité, là? Je ne crois pas. On croit qu'il y a une nouvelle expérience de la finalité. Mais si on a compris que la finalité, c'est l'amour de l'époux et de l'épouse, on ne peut pas dire qu'il y a une nouvelle finalité. Bien que, alors, saint Thomas nous dit trois finalités du mariage. L'amour des conjoints, l'enfant et l'éducation de l'enfant. Il a répété ça aux scolastiques décadentes d'une manière absolue, de sorte que pendant très longtemps on a affirmé la fin du mariage, c'est l'enfant. C'est vrai et c'est pas totalement vrai. Il y a une fin primordiale comme toujours. Il ne peut pas y avoir trois fins. Métaphysiquement, c'est impossible. Il y a un ordre. Et la fin première, c'est le point de vue de l'amour de l'époux et de l'épouse. Et c'est très important, cela. Parce que si on met l'enfant comme fin, il y aura nécessairement le père qui dira, c'est mon fils. Moi, je prends les fils. Toi, tu prends les filles. Et on fait le partage du gâteau. Chacun prend son bien. Alors, c'est la destruction du bien commun. Au sens rigoureux, c'est la destruction du bien commun. Le bien commun ne peut plus être le bien commun. personne, c'est leur amour. Et l'œuvre commune, c'est le bien commun. Et c'est l'œuvre commune. Et donc, ce n'est plus la finalité propre de la personne. C'est l'œuvre commune, le bien commun. Donc, au sens rigoureux, il n'y a pas de nouvelle expérience de la finalité. Il y a l'expérience de l'œuvre commune, du bien commun. Alors, le bien commun de la famille, le bien commun du travail, le bien commun politique, il y a trois espèces de bien commun. À trois niveaux différents. Et chaque fois, ce bien commun ne donne pas une expérience nouvelle de la finalité. Je prends ça au point de vue rigoureux. Psychologiquement, je ne peux pas faire ces distinctions. Je ne peux le faire qu'au plan philosophique. Et je crois que des quantités de confusion viennent de ça. Et là, je passe. Alors, quatrième expérience, découverte de la finalité au niveau de la philosophie, de la matière, nous l'avons vu. La philosophie de la nature va impliquer une certaine découverte de la nature fin. Et cette découverte se fait dans une philosophie spéculative de la matière. La matière, d'une certaine manière, est anti-fin. Ça, c'est sûr. Comme est anti-détermination. La matière, c'est extraordinaire, ça. De voir que, si j'ose dire, comprenez bien ce que je veux dire, la spiritualité de la matière, c'est accaparé. C'est accaparé. Quand vous êtes matérialiste, vous accaparez. Vous engluez. Et vous ramenez à vous. C'est le propre de la matière. Il faut saisir ça. Donc, la philosophie de la matière va découvrir la finalité comme ce qu'il y a d'ultime. Mais la finalité dans la philosophie de la matière est toujours immanente au mouvement. C'est l'ordre dynamique du mouvement. Voyez, la philosophie de la matière me conduit à regarder le feu. Quelle est la finalité du feu? Je découvre la finalité de la matière par le feu, puisque c'est l'élément ultime. Tous les autres éléments sont dépendants de celui-là. Quelle est la finalité du feu? C'est ce mouvement vers le haut. Mais le mouvement vers le haut qui ne se sépare pas du feu. Et donc demeure englué dans le feu. C'est très curieux la manière dont le feu accapare. C'est foudroyant, du reste, ça. Vous voyez ça dans les incendies. Le feu accapare. Bon. De façon étonnante. Et il veut tout prendre. C'est un égoïsme forcené, le feu. Il prend tout. C'est pour ça que c'est si farouche. Un incendie, c'est farouche. Il y a un incendie dans le midi de la France, hein, les bois, c'est terrible. C'est terrible. Les pauvres pompiers, ils sont petits devant le feu. On est très petits devant le feu. On a toujours peur du feu, on a peur de la foudre. On a peur du feu qui vient là, qui vous tombe sur vos pieds. Et la finalité du feu, c'est de foudroyer, c'est de brûler. Le feu brûle. Et il monte. Mais il reste toujours lié. Et donc, l'expérience de la finalité dans le feu est une expérience qui reste très limitée. Elle existe. La finalité de la matière, c'est le feu. C'est la finalité du feu. Et la finalité du feu, c'est d'être feu. C'est d'engendrer le feu. Le feu veut se propager. Comme feu. Il veut tout prendre. Comme feu. Très curieux de voir la puissance du feu sur l'enfant. Ça exerce une séduction prodigieuse. Alors, comprenez bien, je mets des points d'interrogation ici. Autrement dit, je ne découvre la finalité du feu, la finalité de la paternité, de la maternité, que à l'état d'ébauche. Une finalité séparée. C'est une finalité qui se découvre dans une immanence. 5. La philosophie du vivant. Nous avons vu la finalité du vivant de vie biologique, la génération. Le fondement de la paternité et de la maternité. La génération, en tant que génération, je ne dis pas la génération humaine, mais la génération en tant que génération, n'a pas d'autre finalité que l'espèce qui doit continuer. C'est la lutte contre la mort. La mort à son fondement dans la matière. Et la mort est anti-finalité. C'est la mort de la finalité, la mort. Ça termine le vivant. Et il n'y a pas de finalité au niveau de la mort, au niveau de l'individu. Il termine sa vie. Vous voyez, il termine sa vie. Vous ne dites pas qu'il se finalise dans la mort. Il n'y a que les existentialistes modernes qui ont dit ça. Que l'homme est tourné vers la mort. Il est pour la mort, Sartre. Vous voyez la confusion entre le terme et la fin. La mort est le terme de la vie, mais n'est pas la fin de la vie. Pas d'expérience au sens strict de la finalité dans la génération, si ce n'est une finalité immanente grâce à l'espèce qui survit. Mais c'est de la même chose, donc, point d'interrogation, il y a comme une ébauche de finalité. Et c'est ça qui est intéressant à voir, ces ébauches de la finalité, qui ne sont pas des expériences, mais qui sont des ébauches. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas le saisir. Parce que la causalité immanente est trop forte et enferme la finalité dans le vivant qui est l'homme, qui est l'esprit. Alors vous découvrez une finalité, recherche de la vérité. nécessaire pour finaliser mon intelligence. Mais ce n'est pas la réalité en tant que mesure qui finalise. Donc, je dois comprendre qu'au point de vue de la vie de l'intelligence, je n'ai qu'une expérience partielle, une ébauche de la connaissance de la finalité. C'est quand même très étonnant, ça. Une ébauche. Mais comme la finalité ne peut pas se saisir parfaitement du côté de la vie. Et dans l'amour, je saisis le bien que j'aime, la personne, comme ce qui m'attire et comme ce qui m'échappe. Alors du côté de l'amour, je saisis bien la fin. Il n'y a que dans l'amour spirituel que j'ai l'expérience vitale de la fin. Tout ceci me montre combien c'est difficile pour moi d'avoir l'expérience de la fin. Ce n'est que des ébauches. Et c'est important de voir que ce ne sont que des ébauches. Et en philosophie première, les catégories me mettent en face de la passion et de l'action, qui ne me donnent pas l'expérience de la fin, mais de ma manière d'atteindre une certaine fin. Donc je retombe sur le point de vue de la vie. Puisque ce ne sont que des ébauches, la fin comme telle échappe à l'expérience. Je n'ai pas l'expérience de ce que c'est que la fin. J'ai l'expérience du bien par l'amour, mais je n'ai pas l'expérience de ce que c'est que la fin. J'ai des ébauches. Ceci me permet de dire que la fin, comme fin, ne peut être atteinte qu'à travers une induction. Parce que la fin est un principe ultime, n'est pas objet d'expérience. Direct. Si, de fait, la fin ne peut être saisie que par induction, je me pose la question, cette induction, elle sera l'induction dernière de ma vie intellectuelle, puisque la fin est principe ultime dans l'ordre de l'être. Cette induction est donc l'induction la plus parfaite comme induction. Or, l'induction part de l'expérience. Comme je n'ai pas l'expérience de la fin, quelle expérience vais-je prendre pour atteindre cette fin? Je vais prendre les ébauches. Partout il y a ébauche de la finalité, j'ai une certaine expérience de la finalité imparfaite, mais j'ai une ébauche, et ces ébauches me sont données dans toujours dans deux états. Un état imparfait, un état parfait. C'est ça qui me permet de saisir les ébauches de la fin. Alors maintenant, je peux tout de suite élaborer l'induction qui me conduit à la fin. Quels sont, dans ma vie humaine, ces états imparfaits, parfaits? Première expérience, l'état de celui qui s'éveille et de celui qui dort. Nous revenons à cette expérience et elle est fondamentale. Je ne la développe pas parce que nous l'avons fait. L'expérience de celui qui peut réaliser une œuvre et qui la réalise. États différents. L'ami finalise. Mon amour d'amitié me permet d'atteindre cet amour. Voyez, puisque je n'ai pas d'expérience à la fin, je n'ai qu'une connaissance d'ébauche pour mettre en pleine lumière d'ébauche de la fin. Pour la mettre en pleine lumière, je regarde le plus et le moins dans cette connaissance. Et c'est pour ça que je regarde ces deux états imparfaits, parfaits. Si j'avais l'expérience directe de la finalité, je n'aurais pas besoin de regarder ces deux états. Je regarde ces deux états pour que je comprenne comment je m'approche toujours de la finalité, mais que la finalité m'échappe toujours. La fin comme fin, je n'en ai pas l'expérience. Mais j'ai l'expérience de ces deux états. L'état imparfait, l'état parfait. Et ces deux états me mettent en présence de cette expérience tout à fait particulière d'une intelligence qui cherche à comprendre ce qu'est la fin.